En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission préparée par Perrine Suquet et Charlotte Méritant, avec aujourd'hui Marc Bisset à la réalisation technique de l'heure du crime. Et à la une, c'est une émission spéciale, je le disais tout à l'heure, en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. À la une, c'est l'histoire de celui que les enquêteurs de la Brigade des mineurs de Paris avaient surnommé l'électricien, pour des raisons que nous allons vous expliquer avec mes invités dans un instant. Et Le Parisien, sous la plume de Thibaut Reiss, qui est mon invité, consacre une longue page à cette longue traque qui a duré près de 22 ans. Alors, on va vous raconter ça tout à l'heure. Thibaut Reiss va nous rejoindre. Il révèle d'ailleurs ce matin dans Le Parisien que cet homme, ce prédateur sexuel, ce violeur d'enfants, ce violeur en série d'enfants, va prochainement être déféré devant la cour d'assises de Paris, où il va répondre de 18 agressions sexuelles, mais on imagine qu'il a fait au moins plus d'une trentaine de victimes à partir du début des années 90. Cet homme, il a été arrêté le 29 octobre 2012 par les policiers de la Brigade des mineurs de Paris, donc 22 ans après sa première agression. Et quelques jours plus tard, Raphaël Vantard revenait sur RTL sur une des plus longues traques de la Brigade des mineurs.
Ils n'ont jamais lâché prise. Pendant près de 20 ans, les enquêteurs de la Brigade des mineurs de Paris ont enregistré une par une les plaintes des victimes. À chaque fois, des filles d'une dizaine d'années, elles racontent toutes le même calvaire. Cet homme qui les accoste alors qu'elles rentrent dans leur immeuble, il se fait passer pour un électricien et les entraîne ensuite dans un endroit à l'abri des regards pour les violer. Pendant toutes ces années, les enquêteurs ont traqué ce pédophile présumé dans les rues de Paris. Sans résultat, mais il y a 2 ans, ils ont l'idée d'utiliser les nouvelles techniques de détection de l'ADN. Ils ressortent donc certains scellés et les renvoient au laboratoire. Des nouvelles techniques qui parlent très vite. L'ADN d'un homme est retrouvé et enregistré sur le fichier national des empreintes génétiques. Quelques mois plus tard, cet ADN est décelé dans une affaire de cambriolage. C'est celui d'un SDF de 74 ans, un homme que les policiers vont mettre plusieurs mois à localiser. Interpellé en début de semaine, il a été placé en détention provisoire. Les enquêteurs tentent désormais de retrouver toutes ces victimes présumées depuis 20 ans.
Alors c'est cette histoire hors norme que nous allons vous raconter, hors norme d'abord par le nombre des victimes, hors norme également par le mode opératoire de cet homme et par son passé, car en dehors d'être violeur et pédophile, il était aussi voleur et cambrioleur. L'affaire a pu être bouclée après toutes ces années grâce en fait au progrès de la police scientifique. On va vous raconter tout ça avec Thibaut Reiss, donc du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Je reviens à vous dans un petit instant avec les révélations que vous faites ce matin dans Le Parisien. Près de vous, Maître Braun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocate d'une des victimes parce que toutes ces petites filles avaient entre 9 et 10, 11, 12 ans à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1990. Ce sont des adultes qui vont assister au procès de cet homme bientôt. Et vous allez nous dire, pour celles que vous représentez, ce que représente cet événement dans sa vie, comment elle a pu ou non tourner la page. Et puis près de vous, pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces criminels d'un type particulier, le docteur Roland Coutenceau. Bonjour, bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, expert national auprès des tribunaux, et vous êtes spécialisé dans la victimologie et l'agressologie. C'est un terme un peu barbare, mais on comprend bien de quoi il s'agit. Vous évoquiez déjà dans un livre paru l'an dernier, Les blessures de l'intimité, paru aux éditions Odile Jacob, la personnalité de ces agresseurs sexuels et aussi le travail de reconstruction que font après leurs victimes. Alors je reviens à vous, nous aurons également vers 14h45 Jean-Pierre Bouchard qui est psychologue et criminologue avec qui nous parlerons du mode opératoire assez particulier. Nous reviendrons là-dessus là-dessus donc ensemble à 14h45. Mais d'abord, Tibores, peut-être on va remettre les choses en ordre et repartir de cette histoire dans les années 1990. Donc février 1990, une plainte est déposée par les parents d'une petite fille. Elle a été agressée dans son immeuble.
Oui, et ce premier fait, d'ailleurs, va révéler un mode opératoire qui va être répété pour l'ensemble, à quelques exceptions près, des autres faits. On a en tout 65 faits qui ont été signalés, 65, et finalement 33 victimes officiellement recensées aujourd'hui à la fin d'instruction. Donc ce qui va se passer ce 14 février, c'est qu'une jeune fille de 12 ans qui rentre du collège, comme tous les jours, et il est environ 18h30, elle rentre dans son immeuble du 16e arrondissement de Paris, et là, il y a un homme qui se trouve dans le hall de l'immeuble et qui va se présenter comme un électricien. Il va lui demander de l'aider à dévisser un boîtier électrique qui se trouve dans la cage d'escalier. Oui. La jeune fille ne va pas se méfier.
En fait, il lui dit que c'est trop haut pour lui, qu'il faut qu'il la prenne dans les bras, voilà. Pour qu'elle puisse l'aider à atteindre l'endroit qu'il veut dévisser. Quoi.
Exactement, ouais. Dans ce cas précis, c'était effectivement un boîtier électronique qu'il présente comme étant trop haut pour lui, il ne peut pas l'atteindre. Donc il va saisir cette jeune fille, cette fillette même, on devrait dire, par la taille pour soi-disant atteindre ce boîtier électronique. Et c'est en tenant cette jeune fille par la taille qu'il va ensuite procéder aux attouchements et aux agressions sexuelles. C'est un mode opératoire qu'il va, encore une fois, quelques exceptions près, répéter quasiment de la même façon lors de tous les abus sexuels. Il y a des viols, il y a des agressions sexuelles, il y a les deux. Hein.
Alors, on va revenir évidemment sur ce mode opératoire. On va revenir également sur le personnage, parce que je disais tout à l'heure, les enquêteurs de la brigade des mineurs de Paris n'ont pas grand-chose hein, comme indice, sinon quand même une description de cet homme, et ça on y viendra dans un instant, cet homme un peu père tranquille, sympathique, rondouillard, bref, quelqu'un dont on ne se méfie pas.
Jacques Pradel, l'heure du crime sur RTL, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France.
Et avec Tibores, donc du Parisien, qui signe ce matin toute la page qui est consacrée à l'histoire de cet électricien qui s'attaquait aux fillettes des beaux quartiers. Inutile de dire évidemment qu'il n'était pas électricien de métier, mais que les enquêteurs l'avaient surnommé comme cela parce que toutes les victimes parlaient d'un monsieur qui se présentait comme un électricien, puisque le mode opératoire, vous l'avez dit, Tibores, était quasiment toujours le même si parfois cet homme interceptait des enfants dans la rue et avait donc vraisemblablement fait des repérages dans des immeubles. Il possédait d'ailleurs, je crois, quand on va l'arrêter beaucoup plus tard, on va retrouver chez lui la fameuse clé PTT, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, quoi, qui permet d'entrer dans des immeubles malgré les digicodes.
Oui, c'est ça. Et alors, il va se présenter, c'est vrai, comme un électricien dans une très très large majorité des cas. Parfois comme le facteur, parfois comme un technicien de Gaz de France. Et ça se passe... L'effet se passe tout le temps dans des immeubles des très beaux quartiers, des 16e arrondissement, 17e, 7e arrondissement de Paris. Et effectivement, on voit que dans certains cas, il a suivi des enfants, il les interpelle parfois dans la rue.
Parfois même, il sonne à des appartements. Donc,
parfois, il sonne à des appartements.
Il sait qu'il y a un enfant qui habite là.
Voilà, ouais. Donc il y a comme ça des indices de repérage. Pour arriver à ses fins, et en tout cas pour tenter de gagner la confiance de ses victimes, il va parfois proposer l'argent, 10 francs, des bonbons, parfois 20 francs aussi. Et ça va lui permettre, comme ça, de gagner la confiance de ses enfants, de rentrer dans les immeubles et puis, évidemment, de commettre les abus sexuels.
Alors, évidemment, les enfants, d'abord, ce sont des enfants très très jeunes, donnent tous à peu près la même description du personnage. On n'a pas parlé de l'âge. Il y a deux caractéristiques dans leur description. Il est rondouillard, il est pas intimidant, enfin...
Non, il a
de prime abord,
même,
il est rassurant, quoi.
Oui, même plutôt voilà. Rassurant. Ouais. Alors, les premières victimes, effectivement, vont parler tout d'un vieux monsieur, un homme plutôt âgé. Elles vont parler ces victimes d'un homme bedonnant, avec les cheveux grisonnants. Avec une petite calvitie. Et puis au fur et à mesure que la brigade des mineurs va enregistrer de nouveaux faits, eh bien cette description va s'affiner un petit peu. On va parler d'un béret qu'il porte sur la tête, un béret de vieux monsieur, comme vont dire certaines victimes. Et puis aussi aussi d'un accent. D'un accent. Alors, les victimes, évidemment, comme elles sont très jeunes, ne sont pas très précises. C'est difficile pour elles d'identifier cet accent précisément. Mais au fur et à mesure des plaintes enregistrées, les enquêteurs s'aperçoivent que c'est un accent latin, espagnol, italien. C'est pas très précis, mais
portugais,
en tout cas.
Voilà, on ne sait pas.
Ouais. C'est pas quelqu'un qui parle un français absolument fluide et sans accent.
Voilà. Alors, c'est avec ces éléments que la brigade des mineurs de Paris mène l'enquête. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye évidemment de quadriller les quartiers, mais enfin, on peut pas surveiller la moitié des arrondissements de Paris non plus.
Bien entendu. Alors, c'est effectivement dès qu'il y a je dirais quelque chose qui va casser le scénario que met en place l'électricien, il va prendre la fuite. Donc ça va être un voisin qui ouvre la porte, ça peut être dans certains cas des victimes qui vont se rebeller
et se réfugier
dans l'immeuble chez un voisin, chez la gardienne. Il va même parfois être violent avec certaines victimes qui veulent comme ça essayer de s'échapper. Pour les enquêteurs, ce sont des témoignages qui vont être recueillis des victimes parfois de certains voisins, mais qui vont, hormis cette description physique, ne pas apporter d'éléments très très précis pour essayer de coincer cet électricien.
Ah, il faut dire que le début des années 90, les techniques de police scientifique sont quand même balbutiantes. Hein. On commence à pouvoir prélever des éléments biologiques, sortir ce qu'on appelle des empreintes génétiques. Plus tard, il y aura ce fameux fichier donc automatisé des empreintes génétiques dans lesquelles on peut mettre les ADN pour essayer de voir si la personne concernée n'a pas déjà été soit condamnée, soit mise en cause dans une histoire d'agression sexuelle, hein, puisque à l'époque c'était uniquement les agresseurs sexuels dont on mettait l'empreinte génétique dans ce fichier. Mais en fait, au tout début des années 2000, les enquêteurs ont quand même une certitude, c'est qu'ils ont retrouvé le même ADN, même s'il est dégradé, difficile à exploiter, dans au moins 4 affaires.
C'est ça. Et alors, c'est évidemment un élément qui va être déclencheur de la suite des investigations et de l'arrestation finalement, mais ça interviendra beaucoup plus tard. Ce qu'on a effectivement au début de l'enquête, au bout de quelques années plutôt, ce sont des empreintes génétiques qui sont à l'époque de mauvaise qualité, c'est ça, partielle. Il y a très peu de marqueurs, c'est-à-dire qu'il y a très peu de matière pour pouvoir extraire cet ADN. On va retrouver cet ADN donc dans 4 affaires qui se sont déroulées entre 1990 et 1994, et donc à l'époque, non seulement cet ADN est de mauvaise qualité, mais le FNAEG n'existe pas. Il va être créé en 1998. Donc, en 2001, il y a encore des faits qui sont recensés. La brigade des mineurs va rassembler l'ensemble des procédures, va ouvrir une enquête dont le nom est éloquent, puisque c'est la synthèse dite de l'électricien. Et va essayer de rassembler ces éléments, donc cet ADN qui, à ce moment-là, des investigations, et c'est un progrès technologique qui va permettre de le faire, va être isolé comme étant celui de la même personne sur ces quatre affaires. Et les enquêteurs vont aussi à ce moment-là faire un portrait robot, le premier portrait robot de l'électricien.
Qui va être donc diffusé. Là, on est en 2001. Il faut dire que les agressions vont continuer jusqu'en 2003. Et puis ensuite, il y aura ce que j'évoquais tout à l'heure au début de l'émission. On y revient dans un petit instant après cette pause. 2010, la PJ décide dans beaucoup de services, dont la brigade des mineurs qui n'abandonne jamais une affaire, d'avoir peut-être un œil neuf sur des dossiers très anciens, non élucidés. Et c'est là où, justement, une retraitée, une jeune retraitée de la police, un commandant de police va réétudier l'affaire, et on va demander officiellement à ce moment-là, en 2010, à la justice de réexploiter les pièces à conviction sur lesquelles on a trouvé des éléments donc biologiques. Et c'est là que en 2010 on aura la certitude, d'une part, que c'est bien toujours le même homme qui agit, et puis 2012, il y aura ce coup de théâtre Parce que le FNAEG fait bingo, comme disent les policiers. L'homme, et on vous nous raconterait à la suite de quoi, l'homme a subi un prélèvement de son ADN. Évidemment, ça match, comme disent les policiers. Donc, une pause, et puis ensuite, on retrouve Thiborès, en compagnie de maître Beryl Braun, donc, qui est l'avocate d'une des victimes de ce prédateur sexuel, et avec le docteur Roland Coutanceau, aussi psychiatre des hôpitaux et expert auprès des tribunaux.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
On revient donc à cette émission spéciale en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Tout à l'heure, Thiborès reviendra avec nous sur ce qui s'est passé en 2012. Comment finalement, on a pu identifier formellement cet homme qui évidemment est incarcéré depuis, qui va bientôt passer devant les assises de Paris. Ça va être d'ailleurs ma première question à maître Beryl Braun. Bonjour, rebonjour maître.
Oui, bonjour.
Le procès déjà. Vous connaissez déjà la date de ce procès ?
Alors non, on n'a pas encore de date de procès. Simplement, l'ordonnance qui renvoie l'accusé devant la cour d'assises date du mois d'avril 2015. Mmh. Donc vous comptez des délais d'audiencement à Paris entre 8 et 12 mois. Oui. A priori, on s'attend à un procès pour le premier trimestre 2016.
Mmh. Alors, votre cliente, celle que vous défendez dans cette affaire, qui assistera au procès,
a priori.
Un an de plus que vous, je crois.
Exactement.
Elle a 35, 34 ans,
voilà,
c'est ça ?
On est de la même année.
Ouais. Et j'avais envie que, dans cette émission, vous nous disiez qu'est-ce que ça représente dans la vie de cette femme qui, rappelons-le, elle avait 9 ans et demi quand elle a subi cette agression sexuelle dans le début des années 90. Et puis il y a eu 2012, ce coup de théâtre. Évidemment, les policiers ont tenté de retrouver tous les enfants dont les parents avaient à l'époque porté plainte, bien sûr.
Ils ont fait un véritable travail de fourmi puisqu'ils ont quasiment réussi à retrouver toutes les jeunes filles.
Oui.
Et à partir de là, sur toutes celles que l'on a retrouvées, certaines acceptent de venir voir un juge d'instruction, de se déplacer dans son cabinet pour redire ce qu'on a déjà dit il y a de nombreuses années.
Mmh.
Et puis au-delà de ça, après avoir déposé devant le juge, certaines choisissent de se constituer partie civile, c'est-à-dire de venir participer au procès, et d'autre part, elle reste témoin.
Oui.
En ce qui concerne ma cliente, elle a fait ce choix de se porter partie civile, c'est-à-dire d'être une véritable partie au procès pénal qui va se tenir. Alors, les motivations exactes, moi je ne suis pas à sa place, je ne les connais pas. Souvent, ce que les jeunes femmes me disent, c'est qu'elles ont envie de tourner la page, et pour pouvoir tourner la page, il faut aller au bout. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, mais c'est également très difficile parce que ça nous replonge dans un passé qu'on aurait bien voulu oublier. Et la constante, c'est que personne n'oublie jamais, en réalité.
Oui. Alors, en ce qui concerne techniquement l'enquête de police, c'est aussi très intéressant d'avoir un deuxième témoignage avec 15-20 ans de différence, parce que il y a des choses qui n'ont pas été dites à l'époque, soit parce que les enfants manquaient de vocabulaire pour le dire, ce qui leur était arrivé, soit tout simplement par honte ou par... ils n'avaient pas osé dire vraiment ce qui s'était passé.
Oui, complètement, parce que lorsque vous avez une enfant de 9 ans, voire 10 ans, on n'a pas du tout de notion de sexualité à l'époque. Donc, avec les mots d'enfant, on va décrire des gestes, et ensuite, c'est à l'enquêteur d'apprécier si c'est constitutif d'un attouchement, d'une agression, voire d'un viol. Et les conséquences, elles sont très importantes, puisque les délais de prescription ne sont pas les mêmes, et on ne va pas pouvoir poursuivre des faits qui seraient de simples attouchements, tandis que s'il y a eu un viol, donc une pénétration sexuelle, là oui, on va pouvoir poursuivre la personne 10 ans, voire 20 ans après.
C'est ce qui explique que sur les 33 victimes qu'évoquait Thiborès tout à l'heure, 18 ont été retenues, en tout cas, mais peut-être plus que 18, mais enfin, dans les 18, ce sont 18 personnes qui ont tenu à répondre aux convocations du juge d'instruction.
Alors en fait, les 33 victimes ont été retrouvées, et compte tenu des délais de prescription que vient d'évoquer Maître Braun, il n'y a finalement que 18 faits pour lesquels l'électricien est renvoyé devant les assises, mais il y a bien 33 victimes de recensées, simplement, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, on n'a pas pu le poursuivre pour l'ensemble de ces 33 faits. Oui.
Alors, je n'ai pas précisé, mais ça va de soi, mais ça va encore mieux en le disant, cet homme, évidemment, est présumé innocent jusqu'à la tenue de son procès. C'était la justice, ensuite, de trancher, bien sûr, et de juger. Docteur Roland Coutenceau, on va continuer un peu plus longuement dans un instant, mais je disais tout à l'heure, vous êtes spécialiste d'agressologie et de victimologie. Je vous voyais, pendant que Maître Brown parlait de ces jeunes femmes qui, en fait, ne disent pas facilement ce qu'a représenté cet événement dans leur vie, qu'est-ce que vous en avez vu, vous, des patients, d'anciennes victimes? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce que ça représente dans la vie d'une femme d'avoir été agressée à cet âge-là?
Bien sûr, et en même temps, ici c'est évident, mais ce qu'on peut voir, c'est que d'abord, il faut écouter les enfants. Les enfants ont besoin, et là je pense aux parents. Quand on est parent et quand on sait qu'un de ses enfants mineurs d'autour de 10 ans a été victime d'agression sexuelle, on est angoissé. Et donc il y a autant de travail d'accompagnement des parents. Donc c'est important que les adultes, les parents, évitent d'en parler tout le temps, c'est absurde, mais aussi d'en parler jamais. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant entende que les grands peuvent en parler. Donc on laisse une première trace pour envoyer ce signal à l'enfant quand tu as besoin de parler de ça. Alors bien sûr, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réactualisation des souvenirs douloureux au moment de l'adolescence. Pourquoi? Bien sûr, c'est au moment où la sexualité se développe. Et puis, bien sûr, il y a une troisième remontée à la surface de ces souvenirs traumatiques qui sont quand on est à l'âge adulte. Donc,
Quand ces femmes deviennent mères aussi.
Voilà, pour finir, je dirais, de cicatriser, j'emploie un mot un peu neutre, une histoire qui est arrivée aussitôt, tout à l'heure, vous l'avez dit, quelque chose, c'est qu'une sexualité qui arrive au moment où ça n'a pas de sens chez un prépubère. On voit qu'il faut laisser une trace relationnelle par l'écoute dans l'enfance, au moment de l'adolescence, et puis au fond aussi au moment où on est adulte, et pour essayer de que ce souvenir traumatique, et il n'y a pas de fatalité, encore une fois, moi je donne une image, c'est comme du pu traumatique, comme un kyste de pu qui est dans la mémoire émotionnelle, et donc effectivement il faut le vider, il faut le cicatriser, là aussi c'est deux images de médecins bien sûr, pour que à l'âge adulte, ça reste un souvenir douloureux, mais ça n'empêche pas le développement relationnel, affectif de ces petites filles devenues grandes.
Alors, on fait une pause et on retrouve Thibaut Reiss et Maître Beryl Brown, bien sûr, dans un instant, pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'ont dit ces victimes aux juges d'instruction lorsqu'elles ont été retrouvées par les enquêteurs de la brigade des mineurs de Paris.
Jacques Pradel, l'heure du crime sur RTL, en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Nous sommes en compagnie de Thibaut Reiss, donc journaliste au Parisien, de Maître Beryl Brown, avocate de l'une de ces nombreuses victimes, de l'électricien, continuons à l'appeler comme cela. Le docteur Roland Coutenceau était également avec nous. J'ai une question, Maître Brown, mais seules les réponses sont indiscrètes. Hein, donc, je voulais simplement savoir, de la part de celle que vous défendez, que vous allez représenter, elle en avait parlé, adulte, à son entourage, hors sa famille?
Justement, ça, c'est des points qu'on n'évoque pas trop, parce que lorsque les faits se sont produits, oui, il y a une parole qui était assez libre, et elle en avait beaucoup discuté, et elle avait eu un suivi psychologique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
C'est vrai.
Et ensuite, c'est quelque chose qu'on oublie. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez les autres. J'avais presque oublié. Voilà, c'est quelque chose qu'on va entendre. J'avais envie de tourner la page. Mais on n'a pas totalement oublié. Il y a toujours qu'un petit quelque chose qui reste. Mmh. On ne sait pas vraiment quoi, des fois, hein, finalement, un petit mal-être qu'on a comme ça. Mmh. Et lorsque l'occasion se présente, elle a choisi, justement, de revenir sur les faits, et puis de revenir sur les lieux, j'ai envie de dire, puisqu'elle n'était pas revenue à Paris depuis un certain nombre d'années.
Parce qu'elle vit à l'étranger.
Aujourd'hui, elle vit à l'étranger.
Oui. Elle aura à s'exprimer au cours du procès.
Alors, si elle fait le choix de venir, ce qui n'est pas encore arrêté aujourd'hui, puisqu'elle a la possibilité d'être représentée par son avocat, elle n'est pas obligée de venir déposer à la barre d'une cour d'assises parce que c'est une épreuve pour tous et on n'a pas forcément envie d'être mis en présence de la personne qu'on a identifiée comme étant son agresseur.
Thibaurais, je vous ai vu réagir tout à l'heure quand le docteur Coutenceau parlait de ce que représentait ce genre de traumatisme dans la vie d'une femme.
Oui, ce qui est peut-être un peu étonnant quand effectivement on voit ces témoignages de ces jeunes femmes, puisqu'elles sont devenues toutes des jeunes femmes aujourd'hui. La première chose qui frappe, c'est qu'elles n'ont rien oublié. Elles reviennent sur les faits de façon assez précise et elles n'ont pas oublié le regard pour certaines de cet homme. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est que certaines d'entre elles ont réussi à surmonter ce traumatisme, une majorité d'ailleurs en vérité, et puis d'autres évidemment, ça a été plus difficile pour elles, et je pense à certaines auditions de ces victimes où elles expliquent que c'est devenu un tabou familial, un secret de famille qu'il ne faut pas évoquer, et souvent ce sont dans ces familles-là que ces jeunes filles ont eu le plus de mal à surmonter le traumatisme. Certains évoquent des épisodes dépressifs, des anorexies et des difficultés aussi souvent dans leur vie sentimentale, en fait. Et encore pour certaines, encore aujourd'hui.
Oui. Roland Coutenceau, évidemment, on se place du côté des victimes. On parlera tout à l'heure avec vous et avec votre confrère Jean-Pierre Bouchard de la personnalité de ce genre d'agresseur. Mais pour rester sur les victimes... avec le temps qu'il y a, le temps est un bon médecin quand même ou pas ?
Le temps est un bon médecin. On pourrait même dire que, vous savez, il y avait une époque où il n'y avait pas de suivi spécialisé pour les victimes. Et qu'est-ce qu'on constatait ? Évidemment, c'est un peu comme dans la vie avec d'autres types de traumatismes. Parfois, le temps fait son travail, c'est-à-dire que les choses s'estompent. Alors, pour beaucoup de gens, le temps est curateur, on pourrait dire. C'est aussi simple que ça. Mais de temps en temps, on comprend quand il y a cette agression de l'intimité. Vous voyez, un viol ou une agression sexuelle, même sur une petite fille ou un petit garçon. Même regardez dans la tête des parents qui nous écoutent, c'est peut-être la chose la plus atroce qu'ils peuvent imaginer pour leur enfant. Donc, quand effectivement l'agression, le trauma touche l'intimité, effectivement, le risque, c'est quand même, malgré le temps, que ça laisse une trace. Et c'est pour ça que souvent, ce que je dis, c'est que une partie du travail aujourd'hui en victimologie, c'est aussi de parler aux parents. Un parent qui est bien briefé, un parent qui peut poser toutes les questions qui se posent, parce que sa petite fille a été agressée de 10 ans, c'est un parent qui va être plus thérapeutique, plus accompagnant. Voilà, il y a un travail...
Ceux qui disent, on met ça dans la poche, le mouchoir par-dessus, on n'en parle plus.
On l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, au fond, il faut accompagner avec cette intelligence. Les enfants, au fond, aiment oublier. Donc, au fond, il faut peut-être refaire une petite évaluation au moment de l'adolescence ou au moment de la vie de jeune adulte. C'est cet accompagnement intelligent et souple des parents qui est peut-être la meilleure attitude pour accompagner ces enfants.
Encore une toute petite question avant la pause qui arrive. À titre personnel, est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose d'important ? On en parlait tout à l'heure avec Maître Beryl Braun, que la prescription de ces affaires, en tout cas de viol de mineurs, ait été prolongée, puisque c'est 20 ans maintenant.
Oui, c'est une question qui est débattue. Moi, j'ai honnêtement...
débattu, mais la justice a tranché.
Oui, la justice a tranché. J'ai pas d'avis absolu. Je pense que... je dirais que tout à l'heure, on dit... Les victimes souvent disent... où on leur fait dire qu'elles ont besoin du procès pour faire le deuil. Moi, je ne le pense pas. Bien sûr, c'est utile, mais quid quand il n'y a pas de procès ? Quid quand, si on n'avait pas trouvé l'électricien ?
Alors,
donc, au fond, il faut dire qu'on peut s'appuyer sur le procès, mais heureusement, pour nous, thérapeutes, c'est pas indispensable pour aider quelqu'un à cicatriser un peu cette blessure.
Et pour celle que vous représentez, Maître Braun,
je pense que pour elle, comme
elle aurait pu se passer d'un procès, mais maintenant elle affronte la situation.
Il y a l'envie de comprendre. Il y a toujours l'envie de comprendre et toujours cette question qui est pourquoi moi. Ça, c'est une constante aussi.
Alors, comment choisissait-il ses victimes? Quel genre de personnalité développe ce genre d'agresseur et de prédateur sexuel? On va continuer à en parler tous ensemble et puis on prendra tout à l'heure en ligne également donc Jean-Pierre Bouchard qui est psychologue et criminologue et on parlera du mode opératoire de ce prédateur sexuel.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Émission spéciale, donc Le Parisien aujourd'hui en France et l'heure du crime autour de cette affaire de l'électricien. Thiborès, on n'a pas dit encore qu'est-ce qui se passe en 2012 parce que les enquêteurs disent souvent il faut un peu de chance, ça fait partie du talent. Et là, qu'est-ce qui se passe en 2012?
Eh bien déjà, donc en 2010, on a donc ces nouvelles analyses qui sont lancées ADN, qui vont permettre donc d'isoler cette fois un ADN de bien meilleure qualité, qui confirme, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, qu'il s'agit bien du même agresseur. Et cet ADN va être donc enregistré au FNAEG définitivement en 2011. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, le compteur commence à tourner pour l'agresseur de ces fillettes. Et il va manquer à ce moment-là simplement un autre ADN pour pouvoir voir si ça correspond. Et le problème pour les enquêteurs, le problème entre guillemets, c'est que il n'y a plus de plainte depuis 2003. L'électricien a cessé de commettre ses abus sexuels. Et c'est finalement donc un petit coup de chance qui va permettre d'élucider cette enquête. Ça se passe en avril 2012. Les policiers qui sont appelés pour une altercation entre voisins, quelque chose d'absolument banal.
On prélève l'ADN, quoi.
On prélève l'ADN. Il y a une interpellation de l'agresseur principal, qui est un vieux monsieur qu'on amène au commissariat, qu'on place en garde à vue et dont on prélève l'ADN. Cet ADN est envoyé au FNAEG. Ça met quelques semaines, même. Entre temps, il va être jugé, il va être condamné à de la prison avec sursis, sans mandat de dépôt. Donc, il ressort libre du tribunal. Fin de l'histoire, pas vraiment, puisque quelques semaines plus tard, le FNAEG revient vers les enquêteurs en disant, mais en fait, c'est l'ADN que vous cherchez. Ce voisin, c'est l'électricien. Cet agresseur que vous cherchez depuis tant d'années. Forcément, le problème à cet instant-là, c'est que l'électricien, il a disparu dans la nature.
Oui, il n'est plus à l'adresse
en question. Il n'est plus à l'adresse en question. En fait, c'est un marginal, explique celui qui le logeait, son logeur. Il dit, c'est un marginal que j'héberge depuis quelques temps. C'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse fixe. Il va quand même donner aux enquêteurs quelques points de chute où cet homme est susceptible de passer du temps, de passer la nuit. Finalement, ça va payer puisqu'il va finir par être interpellé
dans un square
à côté du métro Liège dans le 9e arrondissement de Paris.
Voilà, il fallait vous donner cette précision parce qu'il y a tout dans cette affaire. Il y a l'opiniâtreté des enquêteurs, évidemment, de la brigade des mineurs de Paris. Il y a cette femme retraitée qui met son œil neuf là-dessus. Il y a l'avancée de la police scientifique, mais il y a la chance. Alors maintenant, on va parler quelques instants, et on va le faire avec Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue et criminologue, de l'agresseur. On a beaucoup parlé des victimes, et c'est bien naturel. Bonjour Jean-Pierre Bouchard.
Oui, bonjour.
Alors, ce qu'on peut retenir de cette affaire de l'électricien, c'est ce mode opératoire auquel il semble ne pas déroger pendant toutes ces années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos?
C'est assez classique, le fait que quelqu'un qui veuille agresser, notamment sexuellement, des victimes et des enfants en particulier, cherche à les attirer sans éveiller leur attention, voire les mettre en confiance. Alors celui-ci a choisi cette technique-là, c'est-à-dire de leur dire de venir l'aider pour faire ses petits travaux dans les immeubles. Mmh. Et donc les enfants le suivent et c'est à cette occasion-là qu'il les isole et qu'il peut les agresser. D'autres le font avec des jeux vidéo, d'autres le font avec des bonbons ou des choses comme ça. Oui. Donc cette technique d'appât, en fait, est assez classique chez les agresseurs et les prédateurs d'enfants.
Et il n'imagine pas que se faire prendre un jour parce que justement, comme il agit toujours de la même manière, il donne quand même peut-être une piste à la police.
Alors c'est quelque chose que l'on trouve assez couramment aussi chez les agresseurs en série. souvent, ils réutilisent des techniques qui savent être payantes pour eux, c'est-à-dire qu'ils leur permettent d'agresser les victimes qu'ils ciblent et qu'ils leur permettent jusque-là de ne pas se faire interpeller. Mais c'est souvent aussi parce qu'ils récidivent de la même façon, qu'ils sont identifiables, qu'ils donnent à voir cette signature très caractéristique. Et que quelquefois, effectivement, au bout de séries plus ou moins longues, ils sont interpellés à cause de ça.
Ouais. Le déclic, évidemment, on peut pas en parler parce que bon, ça serait de la psychologie de comptoir. Mais on peut s'étonner quand même que, apparemment, cet homme, il commence ses agressions sexuelles à 50 ans. Ça veut dire
alors,
simplement qu'on
commence ce qu'on sait, parce qu'en matière d'agression en général et d'agression sexuelle, il peut y avoir un chiffre noir, c'est-à-dire des agressions méconnues ou inconnues. Plus ou moins important. En général, la sexualité est fixée, est orientée assez tôt, au moins à l'âge adulte jeune. Il est surprenant, effectivement, qu'il ne commence à être attiré par les enfants qu'à cet âge-là. Mais ce n'est qu'une supposition. On peut penser qu'il a eu un attrait pédophile avant, en passant à l'acte ou sans passer à l'acte. Ça, on n'en sait rien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate qu'il y a des faits criminels à cette époque-là.
Et voilà, et je pense que le procès, d'une certaine manière, pourra peut-être apporter, évidemment, des réponses à ces questions. Je vous remercie infiniment. Je voudrais simplement remercier d'abord tout le monde. Merci, Maître Beryl Braun. Merci. Thibaut Ress, juste Roland Coutenceau, je donne à ceux qui nous écoutent une phrase à méditer que j'ai pêchée dans ce livre que je signalais tout à l'heure, Les blessures de l'intimité, paru chez Odile Jacob, partant de l'idée que la sexualité, quand on ne l'apprivoise pas, se venge. Et c'est peut-être tout le mystère qui reste à éclaircir effectivement dans ce procès à propos de la personnalité de l'agresseur. Merci infiniment. Donc le procès, Maître Braun nous le disait tout à l'heure, vraisemblablement dans le premier trimestre 2016. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans un petit instant.